enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Alléluia. Bonsoir frères et sœurs, saluez-vous les uns les autres. Vous êtes dans la maison du Seigneur pour louer et adorer le Seigneur, pour entendre sa parole, parce que le Seigneur est bon. Amen. Dites avec moi, le Seigneur est bon.
Le Seigneur est bon.
Amen.
Amen.
Il m'a favorisé dans son bien-aimé.
Il m'a favorisé dans son bien-aimé.
C'est-à-dire qu'il m'a donné la faveur.
En Christ.
Je suis l'enfant du Père.
Alléluia. Amen.
Oh, il y a plein de choses que le Seigneur nous donne dans sa parole qui sont merveilleuses. Et nous devons en profiter, frères et sœurs. Nous devons en profiter. Parce que Dieu nous appelle à aller loin. Amen. Dieu veut que tu ailles loin. Dieu t'a choisi. Il t'a choisi. Tous les hommes sont appelés au salut. Mais ceux qui sont choisis, c'est ceux qui disent oui, Seigneur. Je me
repens.
Oui, Seigneur, je veux que ça change dans ma vie. Je veux que mes péchés soient pardonnés.
Et
à ce moment-là, il te choisit personnellement. Et tu entres dans son plan merveilleux. Et tu apprends à marcher avec lui. Amen. Alléluia.
Amen.
Nous allons continuer sur la prophétie, frères et sœurs. Ce que je vous donne au travers de ces enseignements sur la prophétie vous serviront toute votre vie. Parce que c'est absolument indispensable de savoir et de connaître donc les choses de l'esprit. D'abord, savoir que ça existe. Parce que quand on se donne à Christ, des fois, on ne sait pas que certaines choses existent. C'est normal, on vient de naître dans le royaume de Dieu. Et comme un petit bébé qui naît dans ce monde et qui n'a pas encore de connaissance de ce qui se passe dans le monde, qui ne connaît rien autour de lui,
et
bien c'est la même chose. Quand nous naissons dans le royaume de Dieu, nous avons tout à découvrir, et ça fait partie bien sûr de la vie chrétienne. Découvrir la parole, découvrir le royaume, savoir qui nous sommes en lui, découvrir ce que l'Esprit veut faire au travers de nous, comment il veut se servir de nous, comment nous pouvons recevoir ses dons et réellement le savoir, et comment pouvoir transmettre ses dons. Ça fait partie de notre vie chrétienne. Donc là, nous nous focalisons bien sûr sur la prophétie, et nous avons vu que Dieu se manifeste. Dans 1 Corinthiens 12, il est parlé de 9 dons spirituels. Les dons de révélation, les dons de puissance, et les dons d'inspiration. 9 dons divisés en 3 groupes. Et nous nous intéressons aux dons d'inspiration, qui sont bien sûr la prophétie, le parler diverses langues, qui est quelque chose de différent de notre langue que nous recevons lors du baptême du Saint-Esprit, et l'interprétation des langues. C'est clair que depuis la chute d'Adam et Ève, l'homme a été plongé dans les ténèbres. Adam et Ève n'avaient pas besoin de révélation puisqu'ils voyaient Dieu face à face. Ils avaient juste besoin de dire, Seigneur, dis-moi ça. Et Dieu leur parlait. Et ils voyaient le monde spirituel. Mais depuis qu'Adam et Ève ont chuté, alors nous avons besoin des dons du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit se manifeste, c'est-à-dire rend visible ce que Dieu veut faire. Mais c'est clair aussi qu'un don spirituel, ça se reçoit. Et ça se reçoit dans la présence de Dieu. Un don du Saint-Esprit ne se reçoit pas par la foi. Ou parce que quelqu'un vous a dit, toi tu as le don de la parole de connaissance.
Ça, non,
c'est pas du tout comme
ça.
C'est quelque chose que tu reçois à certains moments où le Saint-Esprit vient et te donne.
Et
nous verrons comment nous pouvons être utilisés par Dieu.
Alors je
vous rappelle que la prophétie, c'est cet aspect que ça coule comme une fontaine dans l'hébreu. La parole de Dieu coule au travers de notre esprit comme une fontaine dans ce monde. Être la bouche de Dieu, ce n'est pas n'importe quoi.
Et
il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de faussaires. Mais rappelez-vous, ce n'est pas parce qu'un jour vous êtes tombé sur un faux billet que vous n'utilisez plus l'argent.
Ce n'est
pas parce qu'on s'est fait rouler une fois
qu'on
met une croix sur tout, sur ce quoi on s'est fait rouler dans notre vie. Sinon, on n'oserait même plus parler à personne, finalement. Parce qu'on s'est tous fait avoir par quelqu'un qui nous a raconté des histoires, qui nous a menti.
Et
c'est pas pour ça qu'on dit « Ah non, non, je ne veux plus que personne me parle dans ce monde jusqu'à la fin de mes jours, parce qu'un jour, quelqu'un m'a menti. »
Eh
bien non. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il va falloir discerner la prophétie.
Rappelez-vous que c'est
1 Thessaloniciens 5 qui nous le dit. Mettre à l'épreuve la prophétie. Retenir ce qui est bon. Ne pas mépriser la prophétie. En disant, ah non, non, Dieu ne peut pas parler comme ça. Ou de dire au contraire, ah, Dieu a dit, ah, alors tout de suite. Je crois, tout ce que n'importe qui dit, Dieu a dit.
Ça, nous
savons, ce sont les deux extrêmes.
Je vous rappelle
que nous avons vu qu'il y a la simple prophétie,
qui est
quoi? Une édification, une consolation, une exhortation.
Mais il
y a aussi la prophétie qui véhicule un élément de révélation. La simple prophétie est souvent pour les bébés spirituels.
Parce qu'il
y a un moment, ils sont un peu par terre dans leur vie chrétienne.
Parce
qu'ils sont affligés par quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Pourquoi, Seigneur?
Et
il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Ils sont pourquoi, Seigneur? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ceci? Pourquoi? Comme les petits enfants, vous savez, il y a des petits enfants, il y a un certain âge où ils posent toujours la question, mais pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi? Et puis quand on grandit, on arrête. Parce qu'on commence à voir les réalités. On a la connaissance qui augmente. Alors, nous avons vu qu'il y a des critères pour retenir ce qui est bon dans une prophétie.
D'abord,
rappelez-vous, elle doit toujours glorifier le Seigneur.
Je vous ai
donné cette illustration de quelqu'un qui m'avait écrit un jour un courrier électronique en disant qu'il se demandait si une prophétie, c'est la prophétie qu'il avait reçue était vraie. Et que, en fait, la personne qui lui avait donné cette soi-disant prophétie lui disait que le Seigneur disait qu'il serait aussi célèbre que Bob Marley. Et en fait, on sait très bien que ça n'exalte pas le Seigneur Jésus, ce genre de truc, mais ça met l'accent sur l'homme. Ensuite, nous avons vu, est-ce que cette prophétie est scripturaire?
Et là,
nous devons faire attention à l'Ancien Testament et la Nouvelle Alliance. C'est pour ça que nous devons être instruits dans la parole de Dieu. La Bible nous instruit, c'est pas pour rien que Dieu nous a donné sa parole. Si nous n'avons pas la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu, nous sommes mal quand il y a des choses qui essaient de se manifester dans nos vies. Parce que si ça vient de Dieu, ça va. Mais si ça ne vient pas de Dieu, on est incapable de discerner.
Et
c'est pourquoi il y a bien des gens qui se sont trompés. Vous avez une chose que le diable essaye toujours de faire, c'est de déconcentrer, de défocaliser le corps de Christ par rapport à la mission que le Seigneur veut. Et ça,
ça
a bien marché parmi pas mal de gens. Beaucoup de gens ont tendance à se défocaliser au travers de modes, de mouvements, de tout ce que vous voulez, de la grande mission que Jésus nous a laissée. Et souvent, ça commence avec des prophéties qui ne sont pas claires. Ensuite, rappelez-vous, elle doit rendre témoignage à votre esprit. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Et l'onction du Saint-Esprit vous enseigne toutes choses. Elle vous montre clairement, normalement, quand quelque chose vient du Seigneur. Mais là, je vous ai montré, quand les chrétiens sont très charnels et qu'ils entendent un message qui va commencer à flatter leur chair, la chair se sent flattée et l'esprit, bah, il a du mal à dire non, c'est faux. Pourquoi ? Parce que tu es dans la chair et tu as trop l'habitude de marcher dans la chair. Et quand tu entends cette prophétie, comme elle te flatte, entre guillemets, parce qu'elle annonce que tu seras le plus grand de tous,
tu
es complètement aveuglé, tu te laisses avoir. Ensuite, nous avons remarqué qu'une prophétie qui prédit en tout cas l'avenir, on se pose la question, est-ce qu'elle va s'accomplir ? Parce que si Dieu parle sur un événement futur et qu'il ne met pas de conditions spéciales, ça doit s'accomplir. Si ça ne s'accomplit pas, ça veut dire que la prophétie était fausse. Rappelez-vous, Dieu avait prévenu son peuple dans Deutéronome à propos de l'accomplissement des prophéties et de reconnaître celui qui a osé parler de la part de Dieu sur quelque chose de futur. Et si ça ne s'accomplit pas, il en a la responsabilité. Si il est prophète ou reconnu dans un ministère prophétique, ça arrive à tout le monde de se tromper. C'est pas parce qu'une personne s'est trompée une fois qu'il faut mettre une croix sur son ministère, méfiez-vous. Parce qu'il y a des gens qui ont tendance à faire ça et à amplifier une erreur d'un serviteur de Dieu parce qu'il s'est trompé et a oublié tout le reste. Ça, c'est très mauvais, ne faites jamais ça. Si un prophète annonce quelque chose et qu'il s'est trompé, mais que bien des fois il a prophétisé des choses qui se sont réalisées, alors ne faites pas une croix sur ce prophète. Kenneth Hagin lui-même disait qu'il pouvait, ça lui arrivait de se tromper. Ça arrive à tout le monde. Je vous ai donné deux exemples de prophètes, enfin un exemple de prophète qui va donner deux prophéties, prédire l'avenir dans les Actes des Apôtres. Et je vous ai montré que c'était Agabus. Et Agabus va prophétiser dans Acte 11 une famine. Ça va se passer. Et le corps de Christ se prépare. Et comme le corps de Christ va se préparer, et ben ça va être une bénédiction pour les gens de Jérusalem. Et j'aimerais bien entendre moi des prophètes prophétiser des choses et que tous les médias du monde entendent ces prophéties qui prédisent des choses et que ça se passe. Croyez-moi que les médias commenceraient à s'abaisser un peu.
Et
apparemment Dieu a du mal à trouver des personnes comme ça, parce que c'est une grande responsabilité. Donc je vous ai montré aussi que à partir de cela il y a aussi des prophéties conditionnelles. Par exemple, Agabus va prophétiser dans Acte 21, on le voit encore, que si Paul monte à Jérusalem, il sera lié. Et Paul va monter à Jérusalem et il va être effectivement lié. Donc il y a des choses comme ça qu'on peut voir qui sont conditionnelles parfois, mais à ce moment-là, le Seigneur met si cet homme monte à Jérusalem ou si, il y a des conditions. Et rappelez-vous, on reconnaît l'arbre à son fruit. Dans Matthieu 7, rappelez-vous, Jésus montre bien comment discerner les vrais des faux prophètes. Nous devons éprouver les ministères. Nous devons regarder les fruits qu'ils portent, c'est normal. Quelqu'un ne peut pas se mettre un titre, quel qu'il soit, dans le ministère et ne jamais emporter les fruits. Ça, c'est un problème qu'on voit parfois. Les gens qui se mettent des titres et il n'y a rien derrière. Alors ensuite, nous avons regardé, est-ce que la prophétie amène une élévation ou une dégradation? Et je vous ai raconté cette histoire que j'ai vécu il y a quelques années dans l'église ici quand on était encore au Méridien, où quelqu'un s'est élevé là, une femme qui voulait manipuler l'église en se levant, en tremblant dans tous les sens, parce qu'il faut être un peu spirituel parfois quand on donne des fausses prophéties, et qui disait: Pharaon, laisse aller mon peuple. Et c'est clair qu'au travers de cela elle me visait en disant que c'était moi Pharaon qui empêchait le réveil.
Non,
il faut être clair face à ça. Lorsqu'une prophétie est libérée, normalement, on entre dans un autre domaine d'onction. Et ça doit être tangible normalement. Le peuple de Dieu éclate en louange. Le peuple de Dieu se sent dirigé quelque part. Ça part à son cœur. Parce que c'est un don qui est donné. À ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. Alors, je crois que nous avions vu en partie la source de la prophétie aussi. Rappelez-vous que c'est pas parce que quelqu'un dit ainsi parle le Seigneur que c'est le Seigneur qui parle. Nous avons vu qu'il y a, quand des gens parlent comme cela, il peut y avoir trois sources. La vraie prophétie, la personne parle au nom du Seigneur, c'est juste un canal d'un message prophétique. À ce moment-là, c'est la bonne source. Et c'est vraiment ce qui va amener quelque chose de particulier. Mais aussi, il y a la chair. Des gens qui sont dans la chair. Soit parce qu'ils cherchent à manipuler. Soit parce qu'ils essaient de se faire passer pour des gens super extra spirituels. Ou soit parce qu'ils essayent de soutirer les choses. Et il y a aussi des gens qui mettent beaucoup de sentiments dans leur prophétie. Surtout envers le sexe opposé. Donc ne vous faites pas manipuler quand vous sentez que ça ne fait pas clic dans votre esprit, fermez-vous. Évidemment, la troisième source, nous le savons, c'est une source directement diabolique. Dangereuse. Et nous en avons un exemple, je vous rappelle, dans Acte 16, où cette femme, cette sorcière, suit Paul et donc ses compagnons, et elle déclare des choses. Rappelez-vous, Dieu nous dit d'éprouver les esprits. Alors, en septièmement, nous avions vu de voir les fruits d'un ministère. Et là, je vous ai dit, il faut faire attention. Parce qu'il y a et il circule des gens qui s'appellent serviteurs de Dieu et qui sont de faux serviteurs de Dieu. Donc, faites attention. Regardons encore dans Matthieu 7. Jésus nous donne vraiment les critères. Au verset 15, il dit: gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. 7, 15.
atubwira ngo mwirinde abigira abavugishwa n'Imana baza kuri mwebwe bambaye nk'intama ariko imbere aramabingira y'inkazi.
Donc Jésus nous dit clairement que ces gens-là ne sont pas sauvés.
Urumva Yesu aravuga ngo neza yuko
abo bantu opèrent sous des esprits démoniaques.
Ariko bakoreshwa n'impwemu mbi z'abadayimoni.
Et au Congo particulièrement, il y a pas mal d'exemples de ce genre de types qui sont là ou de femmes qui se font passer pour des prophètes ou prophétesses.
Ahiyo muri Congo hari abantu mwe nabo
abagabo. Il y a pas mal d'histoires comme ça qu'on entend de droite et gauche.
Abagabo canke abagore usanga baraciye muri ivyo bintu usanga hari
bya mama. Il faut vraiment dénoncer ces personnes-là.
Hari bintu byinshi mwe n'ivyo ni byiza
kubishira. Mais sachez qu'il y a des gens qui traînent aussi ici au Burundi.
No mu Burundi hano.
Et au Rwanda.
No mu Rwanda
ivyo bintu birahari. Donc méfiez-vous, soyez prudents.
Mwende majambo mugabe.
C'est pas parce que quelqu'un s'appelle prophète.
Si kubera ko umuntu aje yitwa umuvugishwa.
Que vous devez le suivre.
D'ailleurs,
vous faites une erreur.
Quelqu'un
qui suit un prophète, il fait une erreur.
Nous
n'avons pas à suivre les hommes.
Nous
devons suivre Christ.
Nous
devons suivre Christ et sa parole.
Et méfiez-vous,
ne vous laissez jamais impressionner par un ministère quelconque. Il est bon de remercier le Seigneur de ce, que, de ce qui se passe au travers d'un ministère. Mais l'homme ne doit pas être exalté. Méfiez-vous, parce que parfois c'est une occasion de chute pour des personnes qui sont vraiment sincères au départ, mais qui n'ont pas encore, qui n'arrivent pas à bien gérer leur ministère.
Alors,
je vous ai raconté plusieurs anecdotes à propos des mouvements dits prophétiques. Et je dois dire que il y a eu beaucoup de choses. Bon, il y a eu des choses qui étaient bien, faut le dire, mais il y a eu vraiment des choses aussi qui étaient extrêmement mal. Il est rare, il faut le dire, de voir dans un même endroit plusieurs prophètes. On voit dans Acte 13, Luc qui nous parle et qui nous donne l'exemple de l'église d'Antioche, qui était une église en pleine explosion. Et il est dit au verset 1, il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des docteurs.
Donc ici
on voit que exceptionnellement dans cette église il y avait plusieurs
prophètes. Mais
il y avait beaucoup de choses qui étaient en train de se produire dans cette église.
Cette
église a été un nid pour la naissance de ministères.
Et on
voit que vraiment il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites et c'est super. Mais c'est assez rare de voir plusieurs prophètes dans un même endroit. Mais ne suivez pas les prophètes. Ne cherchez pas les prophéties dans le sens où que quelqu'un vous donne une prophétie. Si elle vient, examinez-la. Vous avez les critères. Je vous rappelle que si vous recevez une prophétie, direction dans votre vie. Le Seigneur te dit que tu dois faire ceci. Le Seigneur te dit que tu seras cela. Etc. etc. C'est très bien. Si Dieu vous a parlé, cette prophétie va confirmer. Et rappelez-vous que principalement dans le Nouveau Testament, comme nous avons le Saint-Esprit, les prophéties que nous recevons sont des confirmations pour la plupart du temps. La grande majorité du temps, il y a vraiment des confirmations que Dieu nous donne pour nous dire voilà, c'est bien ça que je
t'ai dit. Tu es
bien dans la direction, la bonne direction.
Et je vous
rappelle que c'est souvent à la croisée des chemins que Dieu nous parle. Quand il y a des moments où ben on ne sait pas trop, là on est un peu troublé quelque part.
Des grandes
décisions à prendre.
Des
étapes importantes dans notre vie.
Comme
le Seigneur est bon, il veut qu'on soit bien sûr, qu'on l'ait entendu.
Mais
si jamais quelqu'un vient à vous, vous donne une parole,
et que
franchement vous n'aviez aucune idée de ça, Dieu ne vous a jamais parlé sur ce sujet, Remerciez gentiment la personne. Notez ça quelque part. Et attendez. N'agissez jamais dessus. Sinon, vous allez vous tromper. Pourquoi ? Parce que vous avez le même Saint-Esprit que la personne qui a donné cette parole. Même si ça vous a été confirmé 3 fois dans la réunion. Même si quelqu'un vous a pointé du doigt. Même si vous avez vu les plus grands miracles se produire devant vous. Vous n'êtes pas dirigé par les prophéties. Vous êtes dirigé par l'Esprit qui est en vous. Et la prophétie doit venir confirmer dans vous. Faites attention, faites-en une règle. Je vous dis, faites-en une règle. Moi, j'ai vu des gens avec de grands appels. On sentait vraiment que Dieu voulait faire de grandes choses au travers d'eux.
Qui ont
reçu ce genre de prophétie qui n'était pas de Dieu.
Et
qui ont vraiment, vraiment été dans des sentiers qui les ont mis des années et des années à côté, sur la touche. Alors maintenant, nous allons voir 7 critères pour être utilisés par le Saint-Esprit. Et particulièrement, bien sûr, dans le domaine de la prophétie, c'est ce qui nous intéresse. Donc, 7 critères importants pour être utilisés par le Seigneur, donc par le Saint-Esprit, dans le domaine particulièrement de la prophétie. Et je vous dis franchement, autant on peut avoir des gros farceurs, des gens qui font tout et n'importe quoi et qui portent du discrédit sur le nom du Seigneur, sur les dons spirituels, autant cela ne doit pas nous refroidir du tout concernant les choses de l'Esprit. Plus vous aimerez les choses de l'Esprit, plus vous aurez du discernement sur ce qui est vraiment du Seigneur et ce qui n'est pas du Seigneur. Plus vous pourrez être béni et être une bénédiction envers les autres. Rappelez-vous, il y a un temps où nous avons besoin d'être bénis. Mais celui qui est arrosé doit aussi arroser les autres. C'est bien d'être béni, mais c'est mieux d'être une bénédiction. Allez, chacun répète. C'est bien que tu sois béni.
C'est bien que tu sois béni.
Allez, pointe vers ton voisin là. C'est bien que tu sois béni.
C'est bien que tu sois béni.
Mais tu dois chercher à être une bénédiction.
Mais tu dois chercher à être une bénédiction.
Amen.
Amen.
Jésus a dit qu'il y a plus de joie à quoi? À donner qu'à recevoir.
Yesu yavuze ngo gutanga biruta guhabwa.
Alors c'est sûr qu'un petit bébé qui vient de naître, il va oui oui oui, je veux, il veut tout.
Nivyo akayo gatonya kakivuka urumva gashaka byose niko ni jewe njewe bam bam.
Mais un gros bébé de 10 ans?
Ariko rero ikiyo yacimyaka
10. Si on est encore là à dire oui oui mi mi moi moi.
Ki shikanye imyaka 10 cyo kiyo ico ki bébé ke mama mama.
Il sera malheureux. Parce qu'il est toujours tourné vers
lui-même.
Il veut toujours que les autres lui donnent, il veut toujours recevoir.
Et
il n'est jamais sensible aux besoins des autres. Je vous assure, c'est très mauvais de vivre sa vie chrétienne sur la recherche de la bénédiction. Et c'est un message qui court beaucoup dans le corps de Christ. C'est bien d'être béni, ça je le sais.
Et
on en a tous besoin. Mais ce n'est pas l'objectif suprême. Rappelle-toi, si tu es alité, tu ne peux pas aider quelqu'un qui est malade et aussi alité comme toi. Donc tu as d'abord besoin d'être en bonne santé. Donc d'avoir expérimenté des choses pour toi. La parole, les choses de l'esprit. Tout ça c'est normal, que tu sois en bonne santé. Fort dans la parole. Fort dans les choses de l'esprit. Mais il y a un moment où tu dois comprendre que tu dois avoir un profond désir d'être utilisé par le Seigneur. C'est comme une église qui est là, qui dit « Ah, ben on est bien ensemble. » Ben restons ensemble. On est bénis dans la présence de Dieu. Oh, on est bien enseigné. Donc restons ensemble. Il y a un monde qui se meurt là-bas. Il y a un monde qui se meurt. Et ce monde, il a besoin de Jésus.
Et
il a besoin que tu lui parles et que tu l'amènes ici. Qu'il entende l'évangile de Christ. Qu'il ait le choix d'être trempé dans le message de l'évangile. Et de prendre sa décision. S'il part, peu importe, ce n'est plus ton problème. Par contre, ton problème, c'est de l'amener et qu'il entende l'évangile. Parce que si tu ne fais pas, tu es en train de te tourner vers toi-même. Et crois-moi, tu ne seras pas utilisé par Dieu. Et il y a des gens qui s'illusionnent comme ça, qui veulent toujours être bénis quand on prie pour eux. Et c'est bien de vouloir être béni. Mais sache une chose, si tu ne donnes pas, au bout d'un moment, tu ne seras plus béni. Parce que tu es tourné, tout le temps tourné vers toi. Donc commence à chercher à être sensible aux besoins des autres. C'est quand tu commences à être sensible aux besoins des autres. Commencez à prier pour ton voisin. Commencez à prier pour ton collègue de travail. Commencez à rencontrer des gens à droite, à gauche. Et lui dire, tu sais, Jésus t'aime. Viens, moi je vais t'amener là où tu peux être touché par toi. C'est là où tu commences à être sensible. Tu l'amènes au groupe de maison. Et quand il est là dans le groupe de maison, vous êtes en train de louer et adorer Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, d'un seul coup, il est touché par le Seigneur. Et il pose des questions, etc. C'est ce que Dieu veut, frères et sœurs. 1 Corinthiens 14:1 nous dit: recherchez l'amour, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Donc, il doit y avoir un désir dans nos cœurs. Aspirer à la prophétie, c'est ne pas aspirer à être béni soi-même. C'est avoir un désir de pouvoir être un canal de la puissance de Dieu, de la parole de Dieu. Est-ce que tu as ce désir? Si tu n'as pas ce désir, tu ne seras jamais utilisé par
lui.
Tu dois avoir ce désir. Si
tu
n'es pas sensible à ton prochain, il se passera rien dans ta vie ou pas grand chose. Vous savez, un des grands secrets du bonheur, c'est de vouloir investir chez les autres. Et ça, c'est le problème de beaucoup de gens. Les gens qui sont tristes, malheureux et qui n'avancent pas dans leur vie chrétienne, souvent, ce sont les gens qui ne pensent qu'à moi et moi. Qui sont tournés vers eux-mêmes, mes problèmes à moi, ma bénédiction à moi, ma vie chrétienne, mon argent, moi. Continue à être comme ça, tu seras malheureux. Commence à te dire, qu'est-ce que je peux faire pour investir chez les autres dans une relation, de donner quelque chose de particulier, une parole d'encouragement, de faire du bien à telle ou telle personne, etc. Et tu verras que d'un seul coup, déjà, tu vas arrêter de te tourner sur toi-même. Donc, tes grandes montagnes de grands soi-disant problèmes vont d'un seul coup largement diminuer. Et tu vas découvrir qu'il y a un monde qui est en train de mourir sans Christ. Et qui a besoin de Jésus. Et plus tu fais ça, plus tu donnes, plus Dieu va commencer à t'utiliser. Plus tu es fermé sur toi-même, plus tu seras malheureux. Dis, plus je suis fermé sur moi-même.
Plus je suis fermé sur moi-même.
Répète-le, plus je suis fermé sur moi-même.
Plus je suis fermé sur moi-même.
Plus je suis malheureux.
Plus je suis malheureux.
Eh ben oui. C'est comme ça que ça marche. Vouloir des dons spirituels, c'est vouloir être une bénédiction pour les autres. Donc, c'est être un canal. La première chose qu'il faut, c'est bien sûr être baptisé du Saint-Esprit. Et la Bible nous en parle de ce baptême du Saint-Esprit. C'est largement enseigné ici dans cette église. Mais je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas encore baptisés de l'Esprit. Vous savez, Dieu ne cherche pas des Superman.
Il
ne cherche pas des gens super compétents.
Il
cherche des gens disponibles. C'est tout ce que Dieu cherche chez toi. Dieu ne cherche pas tes compétences, tes capacités. Parce que tant que tu es dans tes compétences, tes capacités, c'est que tu crois plus en toi que dans la parole de Dieu. Et ça, il faut faire très attention. Il faut que tu apprennes. Tu vas apprendre petit à petit. Mais il faut que tu apprennes. Dieu veut t'amener dans les choses de l'esprit. Il faut que tu te dégages de toi-même. Il faut que tu cherches sa présence. Dieu ne veut pas des gens qui sont remplis d'eux-mêmes. Il ne peut pas les utiliser. Leurs idées sur les choses de Dieu, leurs propres compétences ne peuvent pas être utilisées par le Seigneur. Nos compétences sont bonnes seulement quand elles sont sanctifiées. Ça veut dire quoi? Dieu nous a fait des dons dans le naturel, mais ces dons, tant qu'ils ne sont pas sanctifiés, c'est-à-dire tant que tu ne vas pas te glorifier avec en disant je fais l'œuvre de Dieu, seront complètement inutiles. Pourquoi? Parce que tu agiras dans tes propres capacités, propres forces. Donc d'abord, tu dois apprendre à te disponibiliser. Dieu ne veut pas des gens qui sont super compétents. Dieu veut des gens disponibles. La première chose, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. On ne peut voir le Saint-Esprit qu'à partir du moment où on a commencé à marcher dans la deuxième onction. Parce que la première onction que nous recevons, c'est quoi? C'est l'onction de la nouvelle naissance. L'Esprit de Dieu vient habiter en nous, nous le savons. Fait de nous des enfants de Dieu. Il nous enseigne. Il nous parle. À l'intérieur ici. Maintenant, la deuxième onction que tu peux recevoir, c'est-à-dire une mesure de l'Esprit de Dieu, une onction, c'est la présence de Dieu qui descend sur toi. Et là, tu commences à ressentir sa présence d'une façon tangible. Et c'est évident que quelqu'un qui exerce dans les dons spirituels, c'est quelqu'un qui est sensible à la présence de Dieu. Donc quand quelqu'un n'est pas baptisé du Saint-Esprit, il ne peut pas être sensible à la présence de Dieu, puisqu'il n'a jamais expérimenté le plus bas degré de sensibilité à la présence de Dieu. Le plus bas degré de sensibilité à la présence de Dieu, c'est simplement être rempli pour la toute première fois. Et c'est là où le Saint-Esprit nous remplit et nous manifestons ce qu'on appelle le parler en langue. Ce don résident en nous qui nous permet de prier dans l'esprit, de commencer à pouvoir prier dans l'esprit, de dire des mystères sur notre vie. Tout ça, ça fait partie de notre héritage. Ça nous appartient, il y a juste à le recevoir. Mais ça, c'est la porte. Vous ne pouvez pas entrer dans les dons du Saint-Esprit ou avoir une quelconque sensibilité à la troisième personne de la Trinité si vous n'avez pas déjà été rempli une première fois. Rappelez-vous d'une chose, recevoir un don spirituel, c'est une onction ponctuelle qui va venir sur vous, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu va descendre sur vous à un moment particulier. Vous allez baigner dans sa présence et le Saint-Esprit va vous transmettre ce don. Si c'est la prophétie, d'un seul coup, il y a un message qui va commencer à sortir et vouloir sortir sortir de votre esprit.
Dans
une langue que l'on connaît.
C'est
un message du Seigneur. Mais d'abord, il y a une onction.
Je vous
rappelle qu'on ne peut pas prophétiser par la foi. Ouvre ta bouche et je la remplirai, ça ne marche pas. Parce que sinon, tu vas dire n'importe quoi avec ta tête. Et parfois, on assiste à ce genre de réunion lamentable.
Ce
qui amène qu'une chose, c'est la confusion. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est très simple, s'il faut le recevoir.
Et
ça nous permet justement d'entrer dans cette capacité de pouvoir recevoir des dons spirituels. Deuxième chose qu'il faut, c'est bien sûr désirer ardemment les dons du Saint-Esprit. Et pour cela, il faut vraiment un désir, comme je vous le disais tout à l'heure, d'être une bénédiction. Et vraiment avoir un cœur sincère quand tu pries pour cela. Il faut demander à Dieu. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, je veux que ma vie soit utile pour ton royaume. Ça, c'est une prière très utile à faire et qu'il faut faire souvent, frères et sœurs. Seigneur, je veux être utilisé par toi. Seigneur, je veux être une bénédiction pour ton église. Pour des gens qui ne te connaissent pas.
Seigneur.
Ayez un cœur comme ça. Ça, c'est le cœur de Jésus. C'est vraiment le cœur du Seigneur. Seigneur, je veux être utilisé par toi. Tu m'as sauvé, Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire pour être utile? Seigneur, je veux être simplement disponible. Seigneur, utilise-moi. Je veux être une bénédiction. Prie cette prière. Régulièrement, Dieu va commencer à travailler ton cœur. Dieu va commencer à te cuisiner, entre guillemets, te transformer. Parce que c'est quand nous nous humilions devant lui qu'il peut nous élever. C'est quand nous avons un cœur humble et que le Seigneur voit vraiment dans nos cœurs qu'il peut commencer à déverser sa présence, qu'il peut transmettre ses dons. C'est comme ça que Dieu intervient, frères et sœurs. Et ça doit être une initiative de notre part. Dieu a toujours le désir de nous utiliser. Mais devant ce désir que Dieu a, il doit y avoir une réponse de la part de l'homme. Ce désir, cette prière, Seigneur, utilise-moi. Seigneur, je veux me disponibiliser. Et tu continues, tu pries en langue, tu passes du temps avec Dieu. Et de plus en plus, le Saint-Esprit commence à te montrer des choses. La troisième chose, c'est la fidélité. Alors là, il faut être vraiment très précis. Parce que vous savez, quand vous recevez une prophétie, surtout au début, vous n'êtes pas habitué à donner un don spirituel.
Et
il y a plein de choses qui peuvent se passer en vous. Vous tremblez, vous n'êtes pas habitué, c'est la première fois que ça se passe, et d'un seul coup il y a un message qui commence à être là et qui veut sortir de votre cœur, de votre esprit, et alors vous priez en langue, vous priez en langue, et ça s'intensifie, l'onction devient de plus en plus forte sur vous, et vous ne savez pas trop quoi faire, comment faire. Et là il va falloir apprendre à libérer le message, à le parler à un moment opportun. On va voir ce qu'il faut faire pour ne pas faire n'importe quoi. Si vous recevez une prophétie comme cela, il va falloir la donner à un moment particulier. Si vous la retenez trop, au bout d'un moment, l'onction va s'arrêter. Il y a un temps où on doit la donner. Moi, ça m'est arrivé un certain nombre de fois, surtout au début de ma conversion, où j'ai retenu des prophéties comme ça. J'attendais. Et puis finalement, la réunion se terminait.
Et
il y avait une immense frustration dans mon esprit. Parce qu'il y avait une tristesse. Parce que vous savez, quand le Saint-Esprit donne des choses, ce qu'il veut, c'est qu'on les donne. Parce qu'il veut se servir de nous. Et quand nous n'obéissons pas, nous frustrons quelqu'un d'une bénédiction. Et nous désobéissons au Seigneur. Donc dans ces cas-là, vraiment demandez pardon au Seigneur. Et dites au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, je vais être utilisé par toi, mais je veux apprendre aussi. J'ai manqué de foi à ce moment-là. Parce qu'il y a un élément de foi, quand on ouvre sa bouche, c'est normal. Non pas pour le message, mais pour donner le message. Et apprenez aussi à faire une chose. Si vous recevez des dons, donnez juste ce que le Seigneur vous donne. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Si vous recevez un certain message prophétique, vous le donnez tel quel. Ne rajoutez pas toute votre histoire en plus. Ne mettez pas des fleurs. Ne rajoutez pas un joli dessin. Mais donnez simplement ce que le Seigneur vous donne. Même si ça ne dure pas longtemps, peu importe. Si l'onction s'arrête, fermez la bouche. Fermez votre bouche. Quand l'onction est là et que vous commencez à donner le message prophétique, et souvent quand on reçoit un message prophétique, on ne le reçoit pas entièrement. On commence à recevoir certaines phrases, et quand tu commences à les libérer, que le Saint-Esprit continue à donner le reste du message. Un certain nombre de fois, c'est ce qui se passe. Mais quand il n'y a plus d'onction, stop. Sois fidèle avec ce que le Seigneur te donne. Ne retiens pas, mais ne rajoute pas. Apprends à marcher avec l'onction de Dieu. Ça s'apprend. On fait tous des erreurs dans le domaine. N'ayez pas peur de vous tromper. Mais par contre, ne répétez pas trop souvent le fait de vous tromper. On peut tous faire des erreurs, mais ces erreurs doivent nous servir pour nous corriger. Alors une autre chose, c'est la soumission à l'autorité spirituelle. Parce qu'il y a parfois un certain nombre de choses que les chrétiens comprennent mal. Et dans 1 Corinthiens 14, verset 33, Paul nous dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Alors, la Bible est très claire. Nous devons exercer les dons spirituels dans l'ordre. Par exemple, il est arrivé dans certaines réunions où il y avait un prédicateur qui prêchait, et d'un seul coup, quelqu'un qui se lève et qui commence entre guillemets à prophétiser. Non, ça,
ce
n'est pas de l'ordre. On n'interrompt pas un serviteur de Dieu. Ou alors, au milieu d'un chant, surtout dans les assemblées qui sont plus petites, hein, où il y a 50, 100 personnes, ou des groupes de prière, les gens sont en train de chanter « Louer le Seigneur ». Chacun ouvre sa voix et est en train de chanter le même chant. Et
d'un
coup, il y a quelqu'un qui est en train de crier une prophétie. Ça,
ce
n'est pas de l'ordre. D'abord, ça ne servira à rien parce que la plupart des gens ne vous entendront pas. D'autre part, ça ne sert à rien de crier une prophétie, hein, on n'est pas sourd.
Hein.
C'est comme la Bible nous parle de parler en langue, elle ne nous parle pas de crier en langue. Alors, si jamais on reçoit une prophétie, par exemple, si vous êtes dans un groupe de maison, eh bien, vous allez voir le responsable du groupe de maison gentiment, sans vous mettre au milieu, sans crier en langue, sans perturber le temps de la réunion. Et vous parlez, vous dites, frère, j'ai reçu une prophétie. Est-ce que je peux la donner? Normalement, il voudra entendre ce que vous avez à dire de la part du Seigneur. Vous savez, n'ayez pas peur, la prophétie, elle ne fuit pas. Vous n'allez pas la perdre en route. Dieu veut que son peuple soit touché, soit béni. Si vous recevez une prophétie, vous pouvez très bien dire, voilà, le Seigneur dit ça, ça et ça, et ça, etc. au responsable.
Et
vous n'en faites pas, elle n'aura pas fui la prophétie. Ce que vous faites, c'est que vous parlez en langue encore un petit peu.
Je vous garantis,
tout le message va revenir tranquillement. Vous allez vous reconcentrer dans l'esprit facilement.
Et
si le responsable du groupe de maison vous donne le feu vert,
à ce moment-là,
vous donnez la prophétie.
Et
elle sera une bénédiction. Parce qu'on ne fait pas n'importe quoi. Ici, il arrive rarement dans l'église que des gens reçoivent des prophéties.
Mais
si quelqu'un reçoit une prophétie,
il
faut d'abord nous voir en tant que pasteur. Dans la réunion. Et de toute façon, on le sentira très bien s'il y a un esprit prophétique dans l'assemblée. Mais ça peut arriver. Il y a parfois des moments où Dieu visite son peuple dans le domaine de la prophétie. Et ça s'est déjà passé dans cette église.
Hein.
Et ce qu'il faut, c'est que les gens viennent voir les pasteurs.
Et
à ce moment-là, si on juge que ça vient vraiment du Seigneur, on vous donnera ça et vous pourrez donner d'une façon appropriée. Et à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, voilà, tel frère ou telle sœur a un message de la part du Seigneur, on va écouter ce qu'il a à nous dire.
Et la personne
donne la prophétie, ça s'est déjà passé un certain nombre de fois,
et
le peuple est édifié. Par contre, il y a des gens justement qui font n'importe quoi et qui coupent des réunions, et ça, il ne faut jamais faire ça dans le Seigneur. Dieu met toujours des leaders en charge. Et il doit y avoir un respect de l'autorité spirituelle.
Si
vous êtes dans un groupe de maison, c'est votre leader de groupe de maison qui est l'autorité spirituelle déléguée d'ici. Si c'est dans l'église, ce sont nous les pasteurs. Donc n'essayez pas de forcer, ça ne servira à rien. Si on vous dit que c'est approprié, donnez-le. Si on vous dit que ce n'est pas approprié, eh bien, ne le donnez pas et ne concevez pas du ressentiment dans votre cœur.
Parce
que autant on a laissé parfois des gens donner des prophéties, autant il y a des gens à qui on a dit non, c'est pas approprié ou non, on verra ça un peu plus tard ou on en parlera un peu plus tard. Parce que nous avons l'esprit aussi. Et Dieu nous a donné le ministère pastoral. Nous sommes normalement capables de discerner si quelque chose vient vraiment du Seigneur et si c'est approprié. Pour que ce soit donné publiquement dans l'Église. Parce qu'il faut de l'ordre. Amen. C'est important ce que je vous dis, frères et sœurs. Ça fait partie de l'autorité spirituelle. Alors, cinquième chose, c'est de passer du temps dans la présence de Dieu. Ça, c'est important. Ne vous faites pas d'illusions. Vous ne serez jamais utilisé par Dieu si vous ne développez pas votre relation personnelle avec le Seigneur. Si vous ne passez jamais de temps à prier de façon personnelle, en dehors des réunions de l'Église, si vous ne passez pas du temps avec la parole, si vous ne passez pas du temps à louer et adorer Dieu, si vous ne passez pas du temps personnel dans sa présence, ben vous ne serez pas utilisé par Dieu. Et c'est normal. Parce que c'est à force de passer du temps dans la présence de Dieu que nous nous sensibilisons à sa présence. Et pour recevoir un don du Saint-Esprit, eh bien, il faut être sensible au Saint-Esprit. Et pour être sensible, il faut développer sa relation avec le Seigneur.
Ce
n'est pas compliqué, mais c'est indispensable.
Plus
tu passes de temps avec Dieu, plus tu développes ta relation avec le Seigneur, Plus quand il y a des dons, le Seigneur pourra t'utiliser. Parce qu'il cherchera quelqu'un qui est sensible à sa présence.
Sensible.
Pour que justement il puisse l'utiliser comme un canal. Sixième chose, c'est la vie dans la sainteté. Ça aussi c'est très très important. C'est vrai que vous entendrez en général dans le corps de Christ dans le monde, si vous écoutez les messages de différents pays du monde, on insiste beaucoup sur la bénédiction. Et c'est bien que Dieu nous aime, que Dieu veut nous bénir largement, que Dieu a un plan pour nous, une destinée pour nous. Et tout ça c'est très bien, ça nous construit, ça nous amène à vraiment avoir une image de Dieu qui est vraie. Mais d'un autre côté, il faut être clair. Il y a des gens qui sont bénis par Dieu. Et quand je dis béni, vraiment béni par Dieu. Mais qui ne vivent pas dans la sainteté, qui ne nettoient pas leur vie. Et qui gardent du péché dans leur vie. Attention. Parce que ça enlèvera toute sensibilité au Saint-Esprit. Et vous voyez, il faut faire attention. Parce que être béni, c'est une excellente chose. Mais si vous voulez que cette bénédiction ait un effet, je dirais, dans le temps, dans votre vie,
eh
bien, il faut vous sanctifier. Séparation du péché et s'approcher de Dieu davantage. Donc là, il faut faire très attention parce qu'il y a des gens qui glissent. Et moi, j'ai vu des gens être touchés par l'Esprit de Dieu. Dans les années 90, quand il y avait vraiment un puissant mouvement de l'Esprit, dans certains endroits, particulièrement aux États-Unis, des gens mais être complètement retournés par Dieu. De ce qu'on a pu vivre dans cette église et ce qu'on peut vivre, mais multiplié peut-être par 10, 15, 20, 50.
Des gens être
puissamment
touchés.
Mais ils n'ont pas nettoyé leur vie. Et quelques années après, ce n'était pas brillant. Dieu a pu les utiliser un peu là, un peu là.
Mais
attention, la sainteté est une exigence de Dieu pour être utilisée par Dieu.
C'est
pas seulement d'ailleurs pour être utilisé par Dieu, mais c'est une des raisons. Dernière chose qui est un des critères pour être utilisé par Dieu, c'est avoir une attitude corrigeable et enseignable. Parce que je vais vous dire une chose, quand Dieu commence à vous utiliser, il y a toujours le diable qui vient derrière, qui vous dira toujours, puisque Dieu t'utilise, forcément tu as raison. Et ça c'est très dangereux. C'est très dangereux, parce qu'il y a des gens qui parfois commencent à dévier, et on commence à leur dire, tu sais, attention dans ta vie, il commence à y avoir telle et telle chose, parce que tu es un frère, tu es une sœur, tu préviens. Nos frères et sœurs sont là aussi pour veiller sur nous, frères et sœurs. La Bible nous dit aussi de veiller les uns sur les autres, amen. Donc c'est normal que quand tu vois ton frère ou ta sœur qui commence à dévier dans quelque chose, de dire, tu sais frère,
t'es
en train de glisser là, c'est pas bon. Tu sais ma sœur, là il y a quelque chose qui commence à plus aller dans ta vie. Ou par rapport à telle et telle chose, ça ne va plus. C'est pas correct par rapport au Seigneur, par rapport à l'Esprit de Dieu, par rapport à la parole de Dieu. Oui, mais le Seigneur m'utilise. J'ai prié pour un tel, il a été baptisé du Saint-Esprit. J'ai prié pour un tel, il a été guéri. J'ai parlé du Seigneur à quelqu'un et il s'est converti. Oui, fais attention. C'est pas parce que Dieu t'utilise que t'es obligatoirement parfaitement, pleinement dans sa volonté. Et c'est vrai qu'il y a des gens, quand ils commencent à être utilisés par Dieu, ça devient monsieur monsieur et madame intouchable. Non, personne ne doit rien me dire, il n'y a que le Seigneur qui doit me dire quelque chose. Attention à cette attitude, c'est une attitude qui est très mauvaise. Quand quelqu'un n'est pas capable d'être repris par quelqu'un d'autre, et de dire c'est vrai, tu as raison. Tu as raison, je reconnais. Quand on n'est pas capable de ça, on ne sera pas utilisé longtemps par le Seigneur. J'en ai vu des gens comme ça. On leur dit, non, tu sais, là, tu es en train de dévier sur ça. Ah non, mais Dieu m'utilise. Oui, Dieu t'utilise, d'accord, parce qu'il aime certaines personnes. Moi, franchement, j'ai vu des fois Dieu utiliser des gens. Je dis, je ne sais pas pourquoi. Vraiment, des fois, Dieu a utilisé des gens. Mais Dieu est Dieu. Il
n'y
avait peut-être pas quelqu'un qui était peut-être un peu plus sanctifié, qui pouvait être utilisé par Dieu. Vous savez, des fois, Dieu est obligé de trouver ce qu'il trouve.
Amen.
Amen. Oui, il faut vraiment faire attention à cette attitude. Si tu es utilisé par Dieu, remercie-le. Mais sache que tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Remercie-le. Mais si quelqu'un te dit quelque chose, considère-le. Et réfléchis. Et dis-toi, est-ce que vraiment je suis dans la vérité actuellement? Parce que peut-être que tu ne seras pas dans la vérité. Moi, j'ai vu des gens être utilisés par Dieu et être persuadés que Dieu leur avait parlé dans certains domaines. Et leur avais dit, non, je ne pense pas que le Seigneur t'ait parlé dans ce domaine-là. Mais si, parce que Dieu m'utilise. Et je répétais, non, je ne crois pas que le Seigneur t'ait parlé dans ce domaine-là, c'est pas possible. Mais si, Dieu m'a utilisé encore la semaine dernière.
Okay.
Ça ne prouve pas
que
tu es forcément dans toute la vérité.
Donc
fais attention. Si tu veux être utilisé. Parce que, vous voyez, être utilisé dans certains moments de notre vie chrétienne, c'est une chose.
Je suis
en train de vous dire quelque chose d'important ici. Je veux que vous compreniez que votre vie chrétienne, ce n'est pas un sprint, mais c'est un marathon.
On appelle
ça un marathon en français. Marathon.
Marathon.
Quelle est la différence entre deux coureurs qui vont courir? Soit un 100 mètres, un sprint, avec celui qui va courir 40
km.
Il ne se prépare pas du tout de la même façon. Et surtout, il ne va pas gérer sa course de la même façon. Quelqu'un qui va courir un 100 mètres, qu'est-ce qu'il va faire?
Il
va se préparer à fond. Il sait qu'au moment même où le monsieur il a une espèce de pistolet, ça va faire « pan ».
Oui,
il donne le signal donc. Il
ne
peut pas être en train de réfléchir à « est-ce que j'ai entendu ?» Sinon les autres vont être déjà arrivés au bout. Il doit compter sur la moindre impulsion, la moindre erreur qu'il va faire, ça va lui coûter dans sa course. Parce qu'il sait que sa course est extrêmement rapide. Donc s'il prend un peu de retard au début, ça va le pénaliser pour le reste de la course. S'il fait un faux pas, s'il ne fait pas tout ce qu'il faut, s'il
ne
se donne pas à fond du début jusqu'à la fin, il sait qu'il
ne
gagnera pas la course. Par contre, quelqu'un qui va courir un marathon, lui, il
ne
peut pas se dire tout de suite, je me donne à fond. Parce qu'au bout d'un kilomètre, il va être par terre. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Il y a beaucoup de chrétiens. Bon, le Seigneur commence à les utiliser.
Et
ils ne réalisent pas qu'il va falloir qu'ils travaillent leur caractère. Il va falloir qu'ils fassent attention à l'orgueil. Il va falloir qu'ils fassent attention à ce que certains frères et sœurs qui sont équilibrés vont leur dire.
Et
il va falloir comprendre qu'ils se corrigent dans les erreurs. Que les décisions qu'ils prendront aujourd'hui auront des conséquences peut-être dans 5 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans.
Et
beaucoup de gens ne réalisent pas cela. Ils marchent par impulsivité, comme s'ils couraient un 100 mètres et après, ça y est, c'est fini. Non, tu cours un marathon, mon frère, ma
soeur.
Jour après jour, semaine après semaine. Année après année. Dizaines d'années après dizaines d'années. Chaque décision que tu vas prendre, ça va affecter des années et des années de ta vie. Donc quand Dieu commence à t'utiliser, c'est bien. Mais est-ce qu'il va continuer à t'utiliser? Ça, c'est une question qu'il faut que tu te poses. Parce que tu es en train de courir un marathon. Donc Dieu ne veut pas simplement t'utiliser pendant 3 mois, pendant toute ta vie. Mais Dieu veut t'utiliser. Et plus tu grandis en lui, plus il veut t'utiliser. Parce que Jésus, rappelez-vous de cette parabole dans Jean 15. Jésus parle du cep et des sarments, des branches, de la vigne. Et le Père va émonder le sarment, la branche, pour qu'elle porte encore plus de
fruits.
Et beaucoup de gens ne réalisent pas cela. Si Dieu t'utilise pour un moment, c'est bien. Mais reste sur la piste. Sois enseignable. Sois corrigeable. Parce que Dieu veut t'utiliser davantage. Et si tu n'es pas corrigeable et enseignable, Dieu ne pourra plus t'utiliser. Ce n'est pas qu'il ne voudra plus t'utiliser. Donc, regarde toujours ta course comme un marathon. Il va falloir que tu gères ta course. Que tu gères tes forces. Que tu te renouvelles régulièrement. Pour que tu puisses aller jusqu'au bout. Et ne pas avoir la honte comme certaines personnes. Ah, au début de ma conversion. Oh, Dieu me donnait des prophéties. Dieu m'utilisait dans tel domaine. Mais bon, depuis toutes ces années, certainement que le Seigneur ne veut plus m'utiliser.
Ah,
au début de ma conversion, le Seigneur faisait ça et ça avec moi. Mais c'est vrai que ces dernières années, bon, je ne sais pas trop. C'est vrai, j'étais occupé, je me suis marié, j'ai eu mon boulot, j'ai eu ceci. Je pourrais faire une liste très longue de gens qui ont vécu ça. Et je pourrais rajouter plein de gens qui sont dans le ministère qui ont vécu ça. Des gens qui avaient des choses incroyables qui se passaient dans leur ministère. Alors au bout d'un moment, on est arrivé, on est devenu un grand ministère. Mais il se passe plus grand chose. L'église devient un musée. Un musée, vraiment. Où il y a vraiment des choses qui restent et qui ne bougent plus. Et il y a certains ministères qui sont devenus ça. Donc soyez toujours ouverts. Corrigeables, sensibles. La prochaine leçon que nous verrons, c'est la différence entre le ministère de prophète dans l'Ancien Testament et celui du Nouveau Testament.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.